franceinter.com.
Salut, c'est Didier de Paris, conducteur de train à la SNCF. J'appelle parce que on entend se révolter les usagers de la SNCF, en fait les clients avec un grand K, à cause des mauvaises conditions de transport, à cause de cette façon calamiteuse de gérer le service public. Mais chers usagers, braves gens, vous êtes 53% à avoir voté pour cette politique. Alors, un conseil, votre billet, mangez-le. Mais la prochaine fois, n'oubliez pas surtout de ne pas manger votre bulletin de vote. Au revoir. Bon courage, Daniel. Ciao.
Salut Daniel, j'ai besoin de tes services et notamment du répondeur. Donc j'espère que ce message, tu pourras le faire passer. Je sais que ça ne sert pas du tout à ça, ce répondeur, mais dans le cas présent, je suis contraint. J'ai un chien qui est perdu dans les Cévennes. Ce chien est un chien loup tchécoslovaque. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à un loup, c'est-à-dire que toutes les personnes l'ayant vu ont pensé voir un loup. Ce chien est entre Chamborigo et Vialas, au cœur des Cévennes. Donc comme je sais que ton émission est écoutée dans tous les masses un peu perdues dans cette région, je me suis dit peut-être qu'un petit message sur le répondeur de Daniel. Donc voilà, si vous voyez un loup dans les Cévennes, ce n'est pas un loup. Voilà, il suffit d'appeler la gendarmerie ou même mon numéro, le 06 89 06 68 38. Mais de toute façon, les gendarmes sont alertés, donc il ne faut pas hésiter à appeler si on pense avoir vu un loup. Merci beaucoup. Au revoir, Daniel.
Bonjour à tous. Et bien, je viens de lire ce matin dans Le Parisien que les travailleurs sans papier reprennent leur lutte, mais en fait, ils n'ont jamais cessé leur lutte. Ils ont poursuivi la lutte. Si vous avez suivi un peu le mouvement de grève des travailleurs sans papier du piquet de la Porte des Lilas, je vous invite aujourd'hui à continuer de les lire, à lire l'évolution de leur situation, à suivre les dates des réunions festives qu'on peut organiser pour les rencontrer ou les retrouver prochainement. Vous pouvez aller voir sur travailleurs avec un s.canalblog.com. Je répète, http://travailleurs.canalblog.com. Aujourd'hui, il continue toujours. Merci en tout cas à toute l'équipe de Daniel, à tous les journalistes qui sont déjà aussi passés sur le piquet. N'hésitez pas à aller voir. Merci.
Je profite de la parole pour souhaiter à tous les repérés une bonne année 2011 avec une petite pensée particulière pour les habitués de Nantes et de Rosay. Ce jeudi 27 janvier, c'est l'occasion de nous retrouver autour d'un verre pour discuter d'un sujet. Ce mois-ci, la société de classe a-t-elle disparu? Peut-on encore parler de lutte des classes? Les quelques points d'entrée que nous avons dessinés, de quelle façon les classes sociales ont-elles évolué? Quels impacts une société de classe a-t-elle sur les hommes et les femmes? Est-il possible de constituer un front de résistance afin de défendre les intérêts et les valeurs d'une classe? En plus de vos connaissances et expériences personnelles, n'hésitez pas à ramener des livres, brochures, extraits de sites internet ou tout autre support que vous jugez intéressant à présenter pour ce débat. Rendez-vous à 19h30 au Canon à Pâtes, rue Alsace-Lorraine à Rosay, tram 2 et 3, arrêt Pierre-Mille. Les poches pleines de petits grignotages apéro. Voilà, à bientôt. Bonne soirée, au revoir.
Dis donc, Daniel Mermet, il faudrait te voir à poser les questions dans le bon sens. Si je te dis que la main coupée, c'était les sacs chers qui leur bouffaient la main. Ils ne comprennent rien, journaliste français, là. Allez, bon courage.
Bonjour, Daniel. Bonjour, les auditeurs de La Vache qui suit. Je suis très heureux d'avoir entendu parler de ce que vous avez pu faire pour Lumumba. J'aurais voulu simplement demander si vous aviez évoqué, parce que je n'ai pas pu écouter toutes les émissions, Jean Van Lierde, qui a été un des protagonistes du travail qui s'était fait dans la foulée de beaucoup d'autres actions lors de la décolonisation. Et je serais heureux d'apprendre qu'on n'oublie pas non plus l'aide et les échanges qui ont contribué à faire avancer beaucoup de choses. Au revoir.
Dans le pays où près de 80% de l'électricité est produite de façon nucléaire, vous n'avez pas pu échapper au matraquage, au rouleau compresseur de la nouvelle publicité d'Areva. En situation de monopole, il est indispensable pour elle, effectivement, d'envahir les écrans publicitaires avec ce labourage de cerveau. Pourquoi il est indispensable? J'ai un peu la réponse. Prochainement, il y a des élections en France, des élections cantonales. Il y a peut-être besoin d'acheter par avance des espaces publicitaires, d'acheter des journaux, de payer des choses pas forcément très claires. Donc voilà, c'est aussi un biais de la démocratie. Nucléaire et démocratie ne font pas forcément bon ménage. Peut-être bon de réfléchir là-dessus. Salut.
Bon, je suis tombée par hasard sur une feuille du Figaro qui s'intitule la fuite de Ben Ali et le retour des hommes d'affaires. C'est sur le net, hein, bien entendu. Je vais quand même pas acheter le Figaro. La fuite de Ben Ali et le retour des hommes d'affaires. Donc on apprend qu'en fait, c'est pas tellement bien pour les capitalistes une dictature et que c'est peut-être une bonne opportunité pour que les chefs d'entreprise reviennent au pouvoir et fassent de meilleures affaires. Bon, c'est pas du tout que je veux cracher dans la soupe. Je suis absolument folle de joie d'entendre tout ce qu'on entend sur votre antenne et sur les autres. Et sur les autres. Parce que tout d'un coup, comme disait Daniel, le bal des faux culs est bien parti. On peut écouter Yves Calvi, par exemple, on pourrait entendre une émission de Daniel Mermet quand on va écouter C'est dans l'air consacré à la Tunisie. C'est assez rigolo. Mais attention, hein, d'une part, je me trompe peut-être, mais je vois quelque part la main des États-Unis et je ne pense pas être particulièrement prophétique. Et puis ce petit titre, Le retour des hommes d'affaires. Donc, soyez vigilants, frères tunisiens, et malgré tout, quoi qu'il arrive, vous nous avez donné une formidable leçon de sens politique dont je suis sûre que beaucoup de Français vont profiter.
Merci pour ces messages, chers et chères AMG. Une petite note quand même sur les repères de la Basse, si j'y suis. Les repères de la Basse, si j'y suis, sont des lieux où tous les auditeurs peuvent se rencontrer. Je ne veux pas que ça devienne des petites cellules d'évangélisation. Allez-y, il faut que tout le monde puisse y accéder, participer au débat, aux rencontres de ces repères autour d'un verre. Aujourd'hui, on continue. On s'est penché sur le cas de Léopold II. On s'est intéressé à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et là, on va à Lubumbashi. En arrivant à Lubumbashi, j'étais persuadé que cette ville du Katanga, capitale du Katanga, ancienne Elisabethville, c'était en honneur à Lumumba. Et bien, pas du tout. Ça n'a pas du tout la même signification. Qu'est-ce qu'on fait là au Katanga? Eh bien, on va essayer de répondre à la question pourquoi des gens aussi pauvres dans un pays aussi riche? C'est des questions qu'on peut se poser dans bien des endroits du monde. Riche, par riche, on peut entendre beaucoup de choses, mais là, essentiellement, il s'agit de ressources naturelles. Comment est-ce que un pays qui abonde dans cette région, dans ce Katanga, en cuivre, en zinc, en cobalt et en uranium, on va parler de l'uranium du Katanga aujourd'hui, comment un pays aussi riche peut-il être habité par des habitants aussi pauvres? Immense question. Le cuivre, dont la demande se développe actuellement dans le monde à cause du formidable boom chinois, mais pas seulement, en grande partie vient de cette région de la République démocratique du Congo. Le Katanga vient aussi du Chili, vous vous souvenez, quand on était au Chili avec nos amis les mineurs chiliens, que nous n'avons pas vus d'ailleurs, puisqu'ils étaient au fond de leur trou, eh bien, c'est du cuivre dont il est question. Eh bien, là aussi. Et on va voir comment ces matières premières, quand il n'y a que matière première, eh bien, il y a bel et bien malédiction. Et maintenant qu'on a compris un peu comment avait fonctionné Léopold II entre 1885 et 1908, comment ensuite a fonctionné, on l'a évoqué, la colonisation belge jusqu'en 1960, et puis l'assassinat de Patrice Lumumba, et puis Mobutu, qui est venu après et qui, dans l'assassinat de Lumumba, a une certaine responsabilité. On va se demander s'il n'y a pas une filiation, s'il n'y a quand même pas un fil à travers toute cette histoire, et si la réponse à la question que nous nous posons n'est pas précisément dans cette histoire-là. C'est notre sujet d'aujourd'hui, Katanga. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toute l'équipe. Le Café Repère Tourangeau se réunit ce mercredi 26 à 20h. Au bar Le Délice Café qui se situe 8 rue Rouget de Lille à Tours. Pour ceux qui connaissent, c'est à proximité de la place des Halles. Donc en espérant vous y retrouver nombreux et nombreux, demain soir 20h, n'oubliez pas. Allez, ciao, que la lutte continue. Salut.
Oui, bonjour, j'aimerais rappeler une citation dont certains se souviennent peut-être. Il faut remettre la France au travail, rappeler l'honnêteté aux salariés et supprimer les RTT le lundi de Pentecôte. De qui sont ces fortes paroles? De M. Antoine Sellière, le baron Antoine irréprochable et droit prédécesseur de la maire Parisot, présidente de cette magnifique institution qu'est le MEDEF. Silence radio ou presque dans les médias en ce début janvier. Eh bien, monsieur le baron et 15 comparses viennent d'écoper d'une notification de redressement de la part du fisc français de 240 millions d'euros, une broutille. Cette bande, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier, avait acquis en 2007 4,7% du capital de Wendel pour un total de 324 millions payés 102. L'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait là d'un système de rémunération déguisé. L'opération a été baptisée Sulfur. Ils auraient mieux fait de l'appeler d'ailleurs Sulfur, car il y a soufre dans le mot. En plus, M. le baron a des ennuis avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers, à propos d'une montée au capital de Saint-Gobain, qui tendrait par des produits dérivés à faire une entrée dissimulée au capital, et en jouant sur un cours à la baisse puis à la hausse, d'empocher le pactole. Il n'a pas de chance, le bon M. le baron, mais il y a gros à parier que tout cela va se négocier dans le secret du cabinet de M. Barouin. Il n'y a pas qu'en Tunisie, vraiment, qu'il y a des dirigeants pourris, il suffit de regarder chez nous. Tout ça, c'est à vomir. Bon, allez, bonne journée, hein. C'était un message de Gérard du Vaucluse.
Voilà, nous voilà dans le village des Creuseurs. Voilà, immense camp à moitié qui a l'air d'un bidonville comme ça, mais où il y a toutes les activités. Des tas de petites boutiques en tôle, en carton, en branche, en briquet, avec une piste pleine de trous. Bagnoles défoncées, des gens qui vont dans tous les sens, beaucoup d'enfants, marchands de fringues, une espèce de petite buvette, des gosses qui jouent au billard, dispensaire Kennedy. Le boucher qui est en train de dépecer une chèvre avec une chèvre qui attend au bout d'une corde un salon de coiffure. Des dames qui se reposent. Voilà, des petites épiceries. Enfin, toute une activité. Briquet de broc, quoi. Voilà, et là, c'est comment la piste qui va vers les carrés de mine. Voilà. Voilà, j'ai l'impression qu'on arrive sur le site d'Embola. Et puis là, la route est barrée par un énorme camion chargé de minerais. Voilà.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Give Anctil Katanga.
Flight number 2. Arriving from
là, on est bloqué, on est obligé de faire demi-tour parce que les propriétaires de ce camp nous refusent l'accès au prétexte d'un papier qui manque. Et c'est vraiment des attitudes entièrement de patrons colonialistes, quoi. Si on veut retrouver les images de la colonisation du début du XXe siècle, on peut les trouver ici très très facilement. Très très facilement, avec les gars qui passent, les petits creuseurs tout maigres, tout minces, avec des fringues en loque, leur lampe à la main, un bout de marteau, une baramine, une pioche, un bout de pioche, qui sortent de là et qui sont fouillés sous les yeux de ces mecs particulièrement
arrogant, avec toute attitude méprisante. Voilà, là, il y en a qui se barrent sur une moto, avec le maillet sur l'épaule. Ces creuseurs artisanaux, ils ont été jusqu'à 250 000 au Katanga. Et donc là, il y a eu un espoir de trouver du boulot et de faire un peu d'argent. Quoi. Sauf que, aujourd'hui, les carrés de mine qui avaient été attribués à ces creuseurs artisanaux sont attribués à des entreprises privées, voire à des grandes multinationales américaines ou chinoises, ou, qui récupèrent de plus en plus d'espace. Et les creuseurs artisanaux ont de moins en moins de place.
Voilà l'exemple, puisque là on longe tout d'un coup un beau grillage avec des barbelés autour, et c'est l'entrée de la concession qui est tenue par des Chinois, c'est ça Jules?
Oui, c'est des Chinois. Les engins qui sont à l'intérieur, vous voyez, c'est mentionné partout, crec, crec. Donc ceux qui sont venus en même temps pour les contrats des routes.
Alors voilà, c'est pas le mot chinois qui est important dans ce qu'on vient d'entendre, c'est le mot engin. C'est le mot engin parce que les creuseurs artisanaux travaillent avec un maillet, de méchants piquets de fer. Voilà, c'est tout, quoi, leurs mains, un seau, une ficelle. Tandis que là, c'est les engins. Et ils n'ont pas besoin d'autant de main-d'œuvre.
Rapprochement troublant entre les vieux dessins, les vieilles gravures et les vieilles photos représentant la colonisation au début du XXe siècle, des pauvres bougres creusant, ânant, portant des blancs sur leurs épaules ou sur des litières. Et ce que nous voyons là, c'est des hommes à moitié en loc, en train de creuser par des moyens complètement pauvres, manuels, creusant la terre pour, dans l'espoir d'extraire un peu de minerais, de cuivre, nécessaire à tout ce que vous savez, de zinc, de cobalt. Cobalt, très important le cobalt, qui entre dans la composition des batteries de nos portables et de nos ordinateurs. Donc voilà cette activité. Et ils sont comme ça des milliers dans cette région à côté de Lubumbashi, au Katanga, à creuser. On avait déjà rencontré les creuseurs du Nord Kivu. Là, c'est ceux du Katanga. Et le Katanga est une région, une province différente des autres région de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on vous dit et c'est assez vrai. Quand on arrive à Lubumbashi, d'abord c'est calme. La guerre qui a frappé, le conflit très violent, terrible, qui a frappé le pays jusqu'au début, jusqu'au 2003-2004, n'est pas venu dans cette région. Et quand on arrive dans cette ville de Lubumbashi, donc au sud du Katanga, presque à la frontière avec la Zambie, on est frappé par le calme de cette ville. Et il faut bien dire le charme de cette ville. C'est une ville qui a complètement été... C'est une utopie coloniale des Belges qui aimaient tellement cet endroit parce qu'évidemment, c'était le plus profitable. C'était là où on pouvait faire le plus d'argent qu'ils y avaient construit cette ville de Lubumbashi et qu'ils avaient fait cette partition, vous vous souvenez, du Katanga après l'indépendance. Je ne sais pas si nos amis de Namur, les nostalgiques du temps des colonies, passent leurs vacances dans cette ville, mais s'ils vont voir les creuseurs au travail, ils doivent retrouver le plaisir qui est le leur, des bons vieux temps de la colonie. Ici, l'exploitation est totale et terrible, et pourtant, ça a été vu à un moment comme une alternative, comme un progrès. La pauvreté était telle que Laurent Désiré Kabila, qui a été le responsable de ce pays jusqu'à ce qu'il soit lui aussi, comme Lumumba, assassiné, avait eu l'idée de dire « Bon, eh bien, écoutez, puisqu'il y a du cuivre partout, allez-y, creusez, il faut que chacun puisse vivre de la terre et du sous-sol de ce pays. » Pourquoi ? Parce qu'auparavant, il y avait l'union minière du Haut-Katanga, construit par les colons belges, l'exploitation minière. C'est d'ailleurs le symbole de la ville de Lubumbashi, ce très très haut terril, un grand triangle comme ça de poussière. Et puis, à côté, une très haute cheminée. C'est le symbole de cette ville, sauf que tout ça est absolument arrêté. L'union minière du Haut-Katanga, devenue au temps de Mobutu la Gécamines, a fait faillite. Cette entreprise avait employé jusqu'à 30 000, 35 000 personnes, mais Mobutu et sa bande ont été de tels prédateurs que cette entreprise a fait faillite. D'où l'idée pour essayer de secourir ces chômeurs, évidemment sans indemnité, de leur permettre de creuser comme ils peuvent. Aujourd'hui, les choses changent. Les territoires miniers, les carrés miniers, sont concédés à des entreprises étrangères, américaines, certaines grandes entreprises, des grands entrepreneurs congolais, des multinationales et des entreprises chinoises. Il y a des contrats avec des entrepreneurs chinois, des échanges entre des constructions de routes, par exemple, d'infrastructures en échange de carrés miniers. Ça a suscité un certain enthousiasme, ce qu'on a appelé la Chine-Afrique, jusqu'à la crise de 2008, où soudain, ces Chinois sont tous partis, en oubliant, comme c'est ballot, de payer les gens qu'ils employaient. Mais parce que évidemment la crise avait entraîné une chute de la valeur du cuivre, mais comme ces temps derniers, la valeur du cuivre a tendance à remonter, les Chinois, sur la pointe des pieds, sont revenu, mais avec quand même une certaine suspicion de la part de ceux que les colons appelaient jadis les indigènes. Voilà où nous sommes avec ces creuseurs, désespérés parce qu'ils voient leur espace, l'espace qui leur a été dévolu, peu à peu se réduire, donc au profit de ces entrepreneurs venus d'ailleurs, et il leur arrive de creuser et tout d'un coup de s'apercevoir que l'endroit où ils creusent a été concédé à tel ou tel qui a eu la bonne idée de graisser la patte et de payer des bakchiches à tel ou tel du gouvernement. Alors ils se retrouvent comme ça du jour au lendemain à avoir des patrons qu'ils n'avaient pas et à avoir évidemment des revenus beaucoup plus bas. Voilà où nous sommes, dans un pays sans règles, dans un pays sans État, où on se pose vraiment la question: pourquoi des gens aussi pauvres dans un pays aussi riche? C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Katanga.
Vous allez comme ça? Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes creuseur?
Oui, oui.
Tous les quatre là?
Oui.
C'est vous qui creusez au fond avec la lampe là?
Oui, oui, c'est nous.
À quelle heure vous avez commencé ce matin?
Bonjour.
À
7h.
Hein? À 7h.
Et vous terminez à quelle heure comme ça chaque fois?
Bon, 16h, 17h.
16h, 17h. Ah,
mais vous faites tout le chemin à pied là?
Oui. Il y a un temps, quand on a de l'argent, on paye le transport en moto, on nous amène là-bas. Maintenant, aujourd'hui, on n'a rien.
On n'a pas produit quelque chose qui peut nous donner de l'argent.
Vous avez travaillé, mais vous n'avez pas réussi à sortir de minerais.
Oui, oui.
Vous travaillez avec les Libanais, là?
Oui. Bon, ici, c'est moins cher.
Ici, c'est moins cher. Non, moins cher.
Béton, ici, en dehors, c'est 200 dollars. 1400 dollars
la tonne.
Mais ici, on met presque 600 dollars une tonne.
Ah, lui, il vous donne 600 la tonne.
Oui.
Alors qu'à l'Ikassi, quand c'est libre, c'est 1400.
400. Oui.
Mais quand vous avez commencé là, c'était à eux ou pas?
Non, il n'était pas là.
Ah, vous avez commencé?
Il n'était pas là.
Ok, là c'était à 1400, il est arrivé et c'est à 600.
Il a acheté...
Il est très malin.
Oui.
Tiens, voilà, plein de creuseurs qui... Plein de creuseurs qui passent. Tu veux monter?
Je veux monter.
Le camion des creuseurs.
On va,
monter.
Au revoir.
Bonne chance.
Il y a combien de gars là? Il y a une vingtaine de gars. Les creuseurs, tout le monde s'agrippe.
Vous êtes les journalistes?
Oui.
Vous êtes les journalistes?
Oui.
Ah, vous savoir... À chanter.
Vous voulez savoir c'est comment la vie dans la mine?
Oui. Il lui dit là-haut, on est en train de souffrir comme des vaches. Les gens n'en peuvent plus. Regarde, ils sont en train de souffrir comme des vaches. Ils sont très en colère. Ils sortent du travail dans cet état-là. C'est ça qu'il dit.
Tu vois.
Vous allez où là?
À Lucha.
À Lucha?
À l'hôtel.
Lequel?
L'hôtel, à la différence.
À la différence. À la différence. On va écouter la différence. Hein? On va écouter la différence. On se retrouve là-bas.
Ouais.
Ok.
On vous attend là-bas.
À tout à l'heure.
Franchement, on ne peut pas dire qu'on soit les bienvenus, hein, les Muzungu, là, les blancs journalistes dans ces régions, les autorités, les patrons, même pas beaucoup qu'on vienne mettre nos nez de journalistes dans leurs affaires. Par contre, eh ben, évidemment, les creuseurs qui en bavent des ronds de chapeau carrés, comme disait ma maman, eux sont assez contents de nous voir et de nous raconter un peu leur histoire. Ils sont des dizaines de milliers, ces creuseurs, qui n'ont que ce moyen pour survivre. Il y a de bien belles lurettes que l'agriculture dans cette région est au point mort comme ressource, et que, colonisation oblige, ressources naturelles oblige, il n'y a que cette activité qui, je le répète, pendant des années, a nourri quand même pas mal de monde. Et puis il y a eu la baisse des cours et surtout la kleptocratie au pouvoir autour de Mobutu. Il faut dire au passage que Ben Ali a un modèle, c'est Mobutu. Mobutu, qui est resté 32 ans, je crois, au pouvoir, était devenu l'homme le plus riche du monde, au détriment véritablement de ce peuple et des gens qui sont durablement appauvris. Mobutu faisait livrer directement les diamants du Kassai, l'or ou les minerais comme ceux-là, les faisait livrer par avion et ensuite faisait payer sur son propre compte bancaire. Il était devenu ainsi l'homme le plus riche du monde, protégé pendant des années par les États-Unis d'Amérique, qui en avaient fait leur homme pour avoir là un pion dans la lutte dans l'histoire de la guerre froide. Je ne sais pas si c'était le même aveuglement des États-Unis sur les réalités du Zaïre à l'époque que celle de la France aveuglée en Tunisie, mais les comparaisons sont tout à fait possibles. Bref, nous arrivons dans ce village. Village, le mot est excessif, c'est plutôt un bidonville où les creuseurs survivent. C'est des camps de toile avec évidemment à l'africaine absolument tout ce qu'il faut, y compris la différence.
Bonjour.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Ça va bien?
Bon les gars, alors on s'est rencontrés sur la route. Comment ça va le travail alors?
Ça ne va pas.
Vous êtes creuseurs hein, tous les trois.
Oh, ouais,
et vous ça. Habitez là, c'est la différence ici? C'est votre hôtel?
C'est notre hôtel, c'est là où nous résidons.
Qu'est-ce que vous sortez comme minerai là?
Cuivre de malachite, des pierres de collection, tout, des cuivres malachite de collection, tout ça sort ici.
Collection, c'est-à-dire? Ah, pour des collectionneurs, puis après pour faire des objets très beaux, c'est ça? Et lui, il était sur le camion, il dit « Ouais, il faut que vous veniez nous écouter, on souffre comme des vaches. »
On souffre trop mal, et le moyen de vivre, ça ne va pas. On est en train de maltraiter comme des chiens, comme des vaches.
Quand est-ce que vous avez commencé les uns et les autres à creuser? Ça fait longtemps que vous creusez?
Ça fait longtemps, à peu près même 5 ans.
5 ans?
Moi, je fais 10 ans.
Moi, je travaille maintenant 6 ans. Ce Libanais n'était pas là. On travaillait bien, on vendait bien nos matières, on faisait bien le travail. Mais depuis qu'ils sont venus ici, le travail ne marche pas. On est en train de nous confisquer les choses, on est en train de nous torturer, taper les gens comme des chèvres. Ils confisquent. Si quelqu'un te prend une tonne de matière que tu peux vendre ici à Simco à 1 500 $, mais eux te prennent à 250 $, 300 $, c'est confisqué.
Alors qu'est-ce que vous avez comme moyen de défense alors?
Bon, jusque-là, on n'a pas de défense. Hein.
On est comme les enfants qui n'ont pas le parent.
Des enfants abandonnés.
Des enfants abandonnés.
Ouais.
On fait le boulot comme...
Et c'est comment le boulot? Racontez-nous là, le boulot. Il faut descendre dans le puits d'abord.
On descend, on creuse. Vous risquerez même d'atteindre à peu près 30 ou 40 mètres pour trouver les matières. Dès que vous trouvez les matières, là, vous commencez maintenant à faire sortir maintenant les matières. Le marteau, il y a le bar de mine.
Le bêche.
Vous remplissez des sacs.
Et puis celui qui est derrière, il sort le sac et tout le monde sort le sac jusqu'en haut.
Oui, jusqu'en haut.
Et après,
vous êtes obligé de tamiser.
On tamise.
On lave, on
remet là chez les Libanais.
Et les sacs?
Les Libanais nous achètent comme s'ils nous confisquaient.
Parce que lui, c'est lui après qui regarde la pureté du cuivre, le titrage, il dit si c'est la bonne qualité ou pas. Et c'est lui qui décide le prix.
Oui.
Bien, c'est bien lui qui décide le prix.
Et si tu lui dis non, c'est pas assez, qu'est-ce qu'il dit?
Non, il te fout dehors, hein, il te fout dehors. Donc tu n'as pas un mot à dire.
Tu n'as rien à déclarer.
Tu n'as rien à dire.
Tu n'as rien à dire.
Dès qu'il te donne le pourcentage là un peu médiocre, tu n'as qu'à accepter. On est en train de creuser avec nos mains, avec nos forces propres. Mais les engins sont là, c'est seulement pour transporter le matière et faire quoi, les découvertures.
Après, ils appellent les gars comme vous pour aller creuser à la main.
Bon, c'est ça. Hein, c'est ça. Pour trouver la nourriture, nous sommes obligés de le faire. Hein, nous sommes obligés de le faire.
Combien vous sortez de kilos par jour, de tonnes par jour?
Nous, dans notre équipe, nous sommes à peu près 7 ou 8. Chaque jour, s'il y a possibilité, nous travaillons une tonne. Parfois 500 kilos, parfois une tonne 500. Mais l'argent que nous trouvons, en tout cas, c'est peu. Hein. Ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas.
Vous voyez quelqu'un qui a 5 enfants avec une femme ou bien 2 femmes, une maison à louer. Si tu gagnes 50 $, qu'est-ce que ça va te...
Depuis pour trouver 50 $, c'est tout un problème. Hein, c'est tout un problème.
Mais là, il y a la radioactivité, l'uranium. Il y a l'uranium là-dedans, il y a du...
Bon, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Là où il y a du cuivre, il y a toujours quoi? De l'uranium.
Il n'y a pas d'uranium. S'il y avait d'uranium, les sangs pourraient nous sortir dans nos nez.
Ça fait saigner du nez.
L'uranium, ça fait saigner du nez?
Ouais,
hein. À maintes reprises. Si on travaille, il y a les uraniums, les sangs coulent dans les nez. C'est surtout à Chinkolobwe et à Kaoma.
Si tu travailles autour de Chinkolobwe, tu as le sang qui sort du nez, ça prouve que tu as de la radioactivité.
Toi, tu as été à Chinkolobwe?
J'ai été là-bas. J'ai fait au moins une année là-bas, avant qu'on ferme la concession.
Ah, avant 2004 que ça a été fermé, c'est ça? Là, tu savais les risques que tu prenais.
Je sais bien le risque que je prenais, c'est la raison pour laquelle j'avais abandonné.
Nous risquons ça, c'est juste pour chercher les pains. C'est juste pour chercher les pains.
Les pains pour bouffer. Oui. Et les dames, alors elles sont contentes, vous n'allez pas creuser, vous?
Non, elles sont là les pour mamans, nous. Hein. Elles sont
elles
là pour
sont,
nous.
Elles sont là spécialement pour nous. Elles sont venues nous aider.
C'est juste nous aider.
Nous aider seulement.
Tu vois, nous sommes en brousse. C'est difficile de rester seul comme ça. Il faut que les femmes soient là pour un peu nous... Mais pour ma part. Mais ouais, c'est ça.
C'est pour seulement remonter la morale.
Il faut vivre quand même.
Il faut vivre quand même. Mais oui, c'est ça la
vie. C'est dur, mais il y a la vie quand même.
Mais oui, il y a la vie.
Le repos du creuseur.
Le repos du creuseur, c'est ça.
Ok les gars, bah merci de nous avoir reçus.
Bon nom.
Ah, moi je m'appelle Daniel.
Moi je m'appelle Monsieur Rissel.
Moi je suis Hakim Chumba.
Kyosha Makonde.
Americano.
Americano.
Dani. Lui, il est à cheveux, il est allongé par terre.
Americano. Ah ouais.
Salut les gars, merci.
Salut.
Salut. Au revoir, merci.
Daniel, il a beaucoup de succès chez les femmes, là. Hein.
Chincolobwe, les jeunes hommes qu'on vient de rencontrer ont évoqué ce lieu, Chincolobwe, qui on n'en est pas très éloigné, et c'est donc là que certains creuseurs viennent creuser la nuit autour de ce site qui est un site historique très très important dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est de là qu'on a extrait l'uranium qui a permis aux États-Unis de construire la bombe atomique qui a été lancée sur Hiroshima et celle qui a été lancée sur Nagasaki. L'uranium, donc de Chincolobwe, avait été vendu aux Américains dans le cadre du projet Manhattan qui visait à la fabrication de ces bombes par un certain Edgar Sangier qui était le directeur de l'Union minière du Haut-Katanga dont j'ai parlé tout à l'heure et qui avait eu l'intuition de l'importance de l'uranium et avait fait transporter 1200 tonnes de minerai à New York dès 1939. Et officiellement, la mine d'uranium est fermée depuis 1960 à cause du coût d'exploitation et de sa dangerosité quand même. Mais on vient de l'entendre, l'exploitation continue. Et en 2004, il y a eu un éboulement qui a causé la mort de 8 personnes. Le site a été à nouveau fermé. Mais en 2006, le Sunday Times a publié un article affirmant que les douaniers tanzaniens, à côté, auraient saisi un chargement d'uranium 238 le 22 octobre 2005. Un chargement que l'Iran aurait importé du Congo, là où nous sommes. Les autorités iraniennes et congolaises, bien sûr, ont démenti ces allégations et le gouvernement du Katanga a demandé la mise en place d'une commission d'enquête. On s'en sort toujours de cette façon. Donc on voit qu'on est dans un endroit crucial, névralgique, d'autant plus que nous sommes dans cette affaire, nous autres, les Français, à travers Areva et par le truchement de notre président de la République, puisque nous sommes intéressés, des contrats sont en cours de conclusion pour l'exploitation de l'uranium dans cette région et d'ailleurs dans la République démocratique du Congo tout entière. Alors, quelles sont les conséquences de ça pour les mineurs ? Le symptôme est assez extraordinaire, ces gars qui nous disent « Oh, si on saigne du nez, c'est qu'il y a de l'uranium ». On a rencontré à Lubumbashi un professeur chirurgien qui n'a pas voulu donner son nom, mais qui a fait des observations assez troublantes. Donc il y a à nous un sujet qui nous intéresse, qui nous préoccupe, c'est la question de la présence de l'uranium parmi les minerais qu'on trouve au Katanga. Ça nous intéresse notamment en tant que Français, puisque le président de la République, Nicolas Sarkozy, est venu il n'y a pas si longtemps au Congo pour établir des contrats entre la firme Areva et notamment le Katanga pour le contrôle de l'uranium qui intéresse évidemment la France. Or, vous êtes médecin et vous observez en tant que tel qu'il y a une présence d'uranium qui est peut-être en lien avec des naissances bizarres, des malformations qui se multiplient dans la région et notamment dans cette ville de Lubumbashi.
Oui, effectivement, il y a 3-4 ans, nous avons constaté une augmentation de certains types de malformations. Nous allons vous montrer ici quelques photos. Ici, il y a une malformation très rare. C'est l'absence totale de la paroi abdominale antérieure. Ici, vous voyez bien
un
nouveau-né avec une tumeur sacrée. Et l'enfant est mort immédiatement à la naissance. Cette année-là, nous avons observé 6 cas de ce type de malformation très rare dans une même formation hospitalière. Et la particularité, c'est que ce type de malformation était observé chez des femmes jeunes. Généralement, les malformations, on peut les observer, par exemple, chez des mères âgées. Mais ici, c'était des jeunes femmes avec leur mari également jeune. Et le seul point commun, chez tous les cas que nous avons décrits, c'était que ces familles résidaient sur des sites miniers. Ça, c'est le dénominateur commun.
Donc, a priori, c'est là où ils ont été irradiés.
Certainement, nous pensons. L'autre type de malformation que nous avons relevé, c'est l'ambiguïté sexuelle, comme vous le voyez ici, sur ce cliché. Et il y a eu aussi quelques cas d'ambiguïté sexuelle que nous avons observé avec une certaine recrudescence au moment du boom minier.
Quel lien vous faites entre ces malformations étranges que vous avez constatées et la présence d'uranium dans les minerais ?
Il est possible qu'il y ait un lien entre cette augmentation de malformations que nous avons notée avec l'irradiation. C'est possible.
C'est possible. Alors vous dites bien irradiation, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a de l'uranium dans tous les métaux.
Effectivement, l'uranium est présent surtout dans les environs de Likasi, autour de Chinkolobwe. On a trouvé chez les sujets habitant le sud des taux anormalement élevés de métaux lourds, y compris l'uranium, largement au-dessus des normes acceptables par rapport aux habitants du nord, là où on n'exploite pas le cuivre. Il y a aussi une ONG belge qui a fait aussi une étude au niveau des légumes que nous consommons. Ils sont arrivés à la conclusion que le taux des métaux lourds au niveau de ces légumes que nous consommons est au-dessus des normes. Donc ils ont fait ces analyses en Europe et leurs conclusions sont connues.
Alors aujourd'hui, je voudrais savoir si est-ce que c'est comme dans le cas de l'amiante où on a des conséquences sur le temps long? Est-ce qu'on risque d'avoir ce genre de surprise désagréable par la suite? Est-ce que c'est des choses qui peuvent se développer sur la durée?
Certainement, parce que si la population est irradiée, donc on va certainement noter une augmentation des méfaits, des conséquences médicales liées à l'irradiation, pas seulement les malformations. On pourra assister à une augmentation des cancers, de cas d'avortement, de stérilité, de goitre. Donc, en fait, l'irradiation ne concerne pas uniquement les malformations, mais aussi d'autres phénomènes que l'on pourra observer. Yeah.
Au Katanga, le Mbombashi, le mot qui fâche, c'est uranium. Il est recommandé de ne pas le prononcer, de ne pas vouloir faire le malin et le curieux à ce sujet, même si une association de droits de l'homme comme Asado a dénoncé courageusement, très très courageusement, le trafic d'uranium actuel qui continue. Le Congo est devenu la plaque tournante du trafic illégal d'uranium avec des liens avec des terroristes potentiels, pourquoi pas, qui transportent cet uranium, et des États qui sont intéressés de le transformer. C'est ce que prétend cette association, ce qui a valu à ses dirigeants, enfin ses responsables, des répressions extrêmement violentes. Il faut bien sûr rappeler, et quelqu'un comme Thierry Michel, dans son formidable documentaire Katanga Business le montre bien, montre la corruption formidable, la corruption institutionnelle, on peut dire, qui règne dans tout ce pays, dans cette région aussi. Et quand il s'agit de trafic d'uranium et de bakchiche, on peut quand même être inquiet. Voilà le point de vue d'un observateur averti qui lui aussi veut rester anonyme. Une dernière chose, il y a quelques années, un journaliste d'un grand journal américain s'est installé dans un hôtel de Lubumbashi en se faisant passer pour un étranger intéressé d'acheter de l'uranium. Il a fait savoir qu'il était client. Eh bien, il a eu des gens qui lui ont apporté de l'uranium dans son hôtel, dans des espèces de containers. C'était d'anciens mineurs de la Gécamine et qui lui ont apporté cet uranium. Il s'est empressé de leur dire qu'il fallait vite se débarrasser de ça et faire très très attention. C'était extrêmement dangereux, mais enfin voilà une information. Voilà les propos de ce, je ne peux pas en dire plus, on va l'appeler Monsieur X. Explique-moi un petit peu ce que tu sais, toi, sur l'uranium, parce que c'est très contradictoire. On a des informations très, très contradictoires. Tantôt, on nous dit, oui, l'exploitation continue. Il y a des gens qui, la nuit, font des extraits de l'uranium, machin. Il y a des exportations clandestines du trafic d'uranium. Et d'autres qui nous disent, mais pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu sais, toi? Dis-nous un petit peu quelques éléments.
Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que tous les minéraux du Katanga, en commençant les cuivres, il y a les sous-produits, notamment l'uranium. Alors, il y a le nickel, le zinc, le germanium, j'en passe. L'uranium s'exploite avec des techniques. Il faut avoir le matériel pour exploiter l'uranium. Mais la seule chose qui est connue de tous, que dans tous les cuivres, dans tous les cobalt, il y a un sous-produit qui s'appelle uranium, qui ne peut pas être industrialisé. Il y a des endroits au Katanga où l'uranium est présent partout. Mais il y a une concentration connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est Chinkolobwe. C'est là où il y a une forte concentration d'uranium. Mais il y a aussi un fait qu'on ne peut pas cacher, que nos acheteurs, que ce soit les Libanais, que ce soit les Chinois, que ce soit les Coréens et tout ça, aiment bien acheter les produits qu'on appelle ici hétérogénites. C'est l'ensemble de minéraux, de cuivre et de cobalt, qui, généralement, avec des sous-produits, notamment l'uranium. Qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas. Comme on n'a pas une technologie pour scinder l'uranium, le cuivre, le cobalt, l'or au Katanga, on vend tout ça ensemble. Donc, ce sont ces sous-produits-là qui ne sont même pas évalués qu'on vende. Les gens, aujourd'hui, comme vous avez vu qu'il y a beaucoup d'activités aux alentours des mines de Chinkolobwe, je vous dis, c'est 20 km carrés, il y a les gens qui creusent tout autour de ces gisements-là, dans l'espoir d'avoir un hétérogénite avec beaucoup plus de sous-produits qui s'appelle uranium, qui se vend bien. Vous savez, vous pouvez aller dans n'importe quel dépôt ici. Quand vous dites que je viens avec cet hétérogénite de Chinkolobwe, on ne vous demande pas d'explication, de faire passer les tests. Là, on achète tout de suite. Et ces Libanais, ces Indiens, ils achètent ça tout de suite. On paye 50 kilos, on te paye tout de suite. C'est ce qui fait peur. Où est-ce qu'ils amènent ces minerais? C'est ça le problème au Katanga.
C'est ça le problème au Katanga, nous dit cet interlocuteur. Et il n'y a rien là-dedans de plus précis que ça. Hein. Il faut être clair, il faut être sûr ce que dit ce médecin. C'est des indications. Là, sur ce que nous dit cet interlocuteur, sont des indications là aussi. Mais quand même, on peut se dire que tout ça mériterait des enquêtes plus précises. Et il y a vraiment des populations. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des populations en danger.
C'est l'uranium des Chinkolobwe. L'uranium qui a été utilisé pour fabriquer la bombe qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut rappeler que Chinkolobwe a été fermé. C'est avec l'avènement de Kabila Père qui a voulu créer des classes moyennes. Ça, il faut le reconnaître. Puisqu'il y a aujourd'hui les gens qui ne vivent que de ça. Donc, qui a voulu créer la classe moyenne au Congo, qui a autorisé à tout le monde de creuser. Puisque non seulement de creuser le cuivre, l'or et tout ça, puisque dans le temps, c'était l'apanage de l'État. Personne ne pouvait toucher au cuivre. Mais Kabila Père, quand il a pris le pouvoir, il a dit, écoute, on a tous besoin de vivre. Il faut laisser les Congolais de se jouir de la richesse du Congo. On dit que le Congo, c'est le scandale géologique, mais quel contraste où les gens ne savent même pas manger tous les jours. Alors, donner l'occasion à ces gens-là de vivre de cette richesse. Mais hélas, il n'y a pas eu de mesure d'encadrement. C'est ça le problème. On n'a pas su comment orienter cette exploitation. On a donné à monsieur tout le monde de faire ce travail. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont morts au Katanga, qui ne savaient pas que l'uranium tuait les ignorants. Vous vous rendez compte, pendant plus de 2 ans, les gens exploitaient l'uranium là où on avait protégé, là où les gens exploitaient d'une manière industrielle. À Chinkolobwe. Mais l'État était obligé de fermer ça. On a fermé. Officiellement.
On a fermé en 2004, officiellement.
Oui. Officiellement, il n'y a personne qui creuse à Chinkolobwe.
Sauf que la nuit.
Officieusement, il y a les gens, bien évidemment, qui creusent du fait que c'est trop demandé. C'est un jugement qui paye bien. C'est un jugement. Les gens disent ici que mieux vaut mourir avec les radiations d'uranium que mourir affamé à la maison. Ils veulent bien aller là-bas, puisque ça paye bien.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage avec Guy Ventil. Merci aux creuseurs de Louis Char, à Jean-Pierre et Elisabeth, ainsi qu'à Jules et au docteur X et à monsieur X, qu'on va appeler comme ça provisoirement. Je rappelle que le film Katanga Business de Thierry Michel est disponible en DVD et le livre Katanga Business de Jean-Louis Moreau, Thierry Michel et Colette Brackmann a été publié par les éditions Luc Pire en novembre 2009. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, et vous pouvez également nous écouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, Koy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Le Bot et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.